On va parler d'un film qui s'intitule Marcus Klingberg, un pur espion, un film signé Rémi Lenné et Yaël Vidan, qui ont réalisé ce film ensemble. Un documentaire passionnant sur un scientifique israélien spécialiste d'armes bactériologiques accusé d'avoir espionné pour le compte de l'URSS de l'époque. Eh bien, vous êtes adressé à Dieu plutôt, enfin au Dieu plutôt qu'à leur saint, puisque les voici Rémi Lenné et Yaël Vidan à votre micro.
Je suis ravie d'être avec Rémi Lenné et Yaël Vidan pour leur documentaire Marcus Klingberg, un pur espion. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Rémi et Yaël, déjà, pourquoi est-ce que vous avez co-réalisé ensemble ce documentaire sur Marcus Klingberg et comment toute cette aventure a commencé?
Je vais laisser Rémi raconter le début parce que je l'ai rejoint un peu plus tardivement. Voilà.
Alors, un ami israélien me parle de l'histoire de Marcus Klingberg et en particulier Yann Brossat, donc figure de la politique française, petit-fils de Marcus Klingberg. Et il se demandait pourquoi jamais un documentaire n'avait été fait sur l'histoire de Marcus Klingberg. Et je découvre cette histoire à ce moment-là. Et je découvre le potentiel de cette histoire. C'est-à-dire qu'on raconte le siècle, et puis on raconte une histoire qui quand même, bon, on le verra peut-être un peu plus tard, mais je pense que John le Carré en aurait fait un roman magnifique. Et donc, je commence à me plonger dans cette histoire, mais je me rends assez vite compte que je ne suis pas assez familier de l'histoire d'Israël, mais dans ses recoins, dans ses méandres, pour être légitime à traiter cette histoire tout seul. Et on me parle de Yaël, jeune réalisatrice franco-israélienne, israélo-française, enfin je ne sais pas comment on dit, bref, Yaël.
En cours.
Et on se rencontre et immédiatement je me dis, bah, évidemment, c'est elle qui va pouvoir nous piloter dans cette histoire. Et puis, de manière assez logique, peu à peu en progressant dans le travail, elle est devenue co-réalisatrice du projet, d'autant que, mais peut-être j'anticipe un peu sur la suite, c'est elle qui a assuré tous les tournages en Israël, puisque moi, je ne pouvais pas y aller du fait de la situation sanitaire. C'était du temps de la Covid.
Alors, Yaël, j'imagine que c'est vous qui parlez bien hébreu et qui avez contacté tous ces intervenants prestigieux qu'on voit dans le documentaire, et notamment Yaakov Peri, l'ancien chef du Shin Bet.
Alors, quand j'ai rejoint Rémi, il était déjà dans un stade très avancé dans sa recherche. Donc, en fait, une bonne partie des personnages a été déjà contactée, sollicitée. Et puis, ce travail que nous avons mené à deux consistait à vraiment aiguiser, chercher l'angle sur lequel on allait discuter avec chaque personne. Et effectivement, Yaakov Peri, c'était l'un de nos personnages clés dans l'affaire. Et j'avoue que l'entretien avec lui était effectivement aussi un moment assez culminant dans ce tournage et que je trouvais qu'il s'est livré assez sincèrement.
Tout à fait.
Mais elle fait la modeste, Yaël, mais je vais quand même recentrer un petit peu les choses, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des personnages qu'on approche comme ça de but en blanc. Il faut des entretiens préparatoires, et Yaël, avec sa manière à elle délicate, a réussi à instaurer un lien de confiance. Et au moment du tournage, d'une certaine manière, l'essentiel du travail avait été fait, mais c'est Yaël qui l'a fait sur place, en les voyant, les revoyant, leur expliquant ce que nous faisions, pourquoi nous le faisions, et donc elle a vraiment établi un climat de confiance, qui fait qu'à un
Bien
moment
sûr.
donné, on va direct à l'essentiel.
Alors, allez-y.
Avec Yaakov Peri, c'est que je me souviens très bien qu'on a cherché à joindre plusieurs personnes de l'establishment, de l'institut sécuritaire israélien, de personnes qui étaient impliquées dans l'affaire Klingberg. C'était extrêmement compliqué, déjà parce qu'une bonne partie de personnes n'est plus de son. De l'époque n'est plus vivant. Et donc, c'était une vraie chance de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a toute cette logique sécuritaire et en même temps est ouvert à la discussion. Mais il faut quand même signaler que c'est un oiseau rare, Yaakov Peri, dans le paysage de l'appareil sécuritaire.
Tout à fait. Et Rémi, donc vous citiez John le Carré.
Alors, je vais juste rajouter un petit truc sur ce que disait Yaël, c'est-à-dire que assez vite, Yaël et moi, on s'est dit, les seuls intervenants du film, il faut qu'ils aient rencontré, qu'ils aient croisé la route de Marcus Klingberg. Nous ne voulions pas l'un et l'autre, l'une et l'autre, d'experts, d'historiens. Nous voulions des gens qui avaient, d'une certaine manière, eu une part active dans cette histoire. Et c'est vrai que Yakov Perry nous est tombé du ciel, puisque lui-même était au Shin Bet, dirigeait le Shin Bet du temps de la traque de Marcus Klingberg. Donc ça a été formidable.
Et puis il a payé un vrai prix public quant à son intervention en faveur de Klingberg.
Alors justement, donc je voulais revenir sur un autre intervenant tout de même très très majeur qui intervient sans intervenir, c'est John le Carré, Rémi, qui répond à vos lettres tout de même, c'est pas rien.
Alors là, c'est une histoire, c'est un peu un film dans le film, puisque je progresse dans cette histoire tout au début. Alors Yaël progresse du côté israélien, moi je progresse un petit peu en France avec Yann Brossat, etc., et les intervenants français, Antoine Comte, l'avocat de Sylvia Klingberg, la fille de Marcus Klingberg. Et chaque fois que je racontais cette histoire, on me disait, ah, ça c'est une histoire à la John le Carré. Et à un moment donné, je me suis dit, mais puisque c'est une histoire à la John le Carré, demandons à John le Carré ce qu'il en pense. Alors bon, je vous la raccourcis un petit peu, ça a été un petit peu plus compliqué que ça, il a fallu trouver son adresse, communiquer, parce que je voulais communiquer directement avec lui et pas passer par éditeur, etc.
Et on est en plein confinement au niveau mondial.
Voilà, et ça arrive au printemps 2020, je ne vous fais pas de dessin, tout le monde est cloîtré chez soi. Et je me souviendrai toujours que juste avant que la poste ferme, mais je m'y présente, il y avait une queue immense et j'avais ma lettre pour John Le Carré. Et je la lui poste. Et puis alors là, c'est un peu une bouteille à la mer. Hein. On se dit d'ici à ce qu'il réponde. Et effectivement, les semaines passent et il n'y a pas de réponse. Et puis, la première lettre que je reçois dans ma boîte aux lettres durant le confinement, c'était la lettre de John le Carré. Le timbre, son écriture manuscrite, et parce que c'est quelqu'un qui a toujours écrit à la main. Et moi, j'attendais un accusé de réception, au mieux. Et c'est une lettre charpentée où il commence à dire, mais je ne connais pas cette histoire, elle est fabuleuse, dites-m'en plus. Et donc, on a utilisé les courriers de John le Carré, puisqu'il y en a eu six au total, des échanges assez nourris, pour visser la narration du film.
Structurer.
Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus, John le Carré va mourir juste après. On a cette phrase que vous mettez en exergue plusieurs fois dans le livre, We betray to be loyal, on trahit pour finalement rester loyal à ses convictions. C'est vraiment, Rémi, l'impression que vous avez sur Marcus Klingberg?
Je crois que oui. Alors après, il faut rentrer dans le personnage, dans le, la, comment dire, dans le système mental de Marcus Klingberg. Je crois que c'est très très complexe, parce que pour comprendre, pour approcher, comprendre, c'est peut-être un peu ambitieux, mais pour approcher, il faut déjà se placer dans tout ce qu'il a traversé. Et c'est un homme qui, pour sauver sa vie, d'abord, il a dû trahir. Mais dès l'origine, enfin trahir, qu'est-ce que recoupe le mot trahir? C'est compliqué. Quand il s'en va avec l'armée rouge, il est juif à Varsovie dans les années 30. Donc il voit monter l'antisémitisme. Et son père lui dit, tire-toi, va-t'en, il faut qu'il y en ait un au moins qui soit sauvé dans la famille. Mais d'une certaine manière, c'est une trahison. Il laisse les siens, il abandonne les siens, et puis il part avec l'armée rouge. Déjà une trahison originelle là-dedans. Mais elle lui permet, un, de sauver sa vie, et puis deux, de participer à un combat contre l'antisémitisme, enfin contre Hitler, contre le Troisième Reich, etc., etc. Donc il y a une somme de trahisons, d'une certaine manière, les unes pour la bonne cause, d'autres sans doute plus obscures, qui sont dans son fonctionnement, parce que son fonctionnement s'est structuré autour de ça, de cette époque, des trahisons, de la guerre, de l'antisémitisme, tout son personnage, son caractère, son tempérament, c'est constitué autour de la question de la trahison.
Disons qu'en le lisant, côtoyant les gens qui l'ont connu, en ayant mené tout ce travail-là, je pense qu'on a eu l'impression que lui, certainement, aurait pu dire cette phrase de lui-même. Et après, c'était aussi un peu cette phrase emblématique qui nous a guidés, effectivement, dans ce qu'on a cherché à explorer avec les différentes personnes qui l'ont connu.
Rémi, vous citiez Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français et petit-fils de Marcus Kinberg, très peu connu, un héritage communiste impressionnant.
Oui, absolument. Alors bon, évidemment, ça a un peu évolué hein, depuis. Marcus Kinberg lui raconte dans ses mémoires que le jour le plus funèbre de sa vie, c'était la mort de Staline. Je crois qu'on poserait la même question à Yann Brossat. Je pense que Staline, ça fait partie de la préhistoire pour lui. Et peut-être une histoire d'ailleurs qu'il conviendrait de revisiter. Il est dans autre chose. C'est un homme politique du présent et actif, progressiste, mais c'est aussi quelqu'un qui est porteur de toute cette histoire-là. Et de l'engagement de son grand-père et de
C'est
sa
vrai.
mère. Parce qu'il faut surtout pas oublier les femmes dans cette histoire. On parle de Yann, on parle de Marcus, mais peut-être que c'est Yaël qui en parlera mieux que moi. Peut-être
Vanda et
Vanessa.
Sylvia.
Vanda et Sylvia, oui, en effet, qui ont chacune une part assez mystérieuse et très puissante à la fois. Vanda, jusqu'au présent, on ne sait pas quelle était véritablement sa part dans l'espionnage. Et on a tout un tas d'indices qui peuvent nous faire croire qu'elle était peut-être bien plus impliquée à ce qu'on pense, et peut-être même c'est elle qui a piloté son mari depuis le départ. Il y a plusieurs théories là-dessus. Et quant à Sylvia, elle aurait mérité un film toute seule, mais pour revenir à votre question par rapport à Yann, je pense que ce qui se traduit aussi dans les travails qu'Yann mène sur l'aspect politique, il y a des engagements qui sont à l'héritage de l'engagement de gauche, d'abord en Israël, mais puis aussi une fois arrivé en France, de sa mère Sylvia, que Rémi a connue et a rencontré plusieurs fois avant qu'elle décède en 2017 ou
Non, non,
2020.
2020, 2021. En novembre 2021, elle meurt. C'est grâce à Sylvia qu'on a fait ce film. Il y avait eu plusieurs projets autour de l'histoire de Marcus Klingberg. Une telle histoire, ça éveille évidemment l'intérêt des cinéastes, des écrivains, etc. Sylvia s'y était toujours opposée parce qu'elle considérait que ceux qui s'y engageaient n'étaient pas de confiance pour rendre compte vraiment de la complexité de l'histoire. Et puis, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai travaillé avec un réalisateur dans ma jeunesse qui s'appelle Daniel Carlin et pour qui Sylvia avait une grande admiration. Donc, elle a accepté de me recevoir avec Yann. Quand Yann le lui a demandé, puisqu'on est passé par Yann, hein, la première personne qu'on a rencontrée, c'était Yann, mais Yann nous a dit, le verrou, c'est ma mère. Si ma mère ne veut pas, c'est elle qui détient les archives, c'est elle qui a traversé toute l'histoire. Si ma mère ne veut pas, ça ne sera pas possible. Et donc, j'ai rencontré une première fois Sylvia. Elle était extrêmement méfiante. Je suis passé, c'était un interrogatoire. Mais peu à peu, là aussi, la confiance s'est installée dans un rapport où c'est peut-être un peu bête de dire ça comme ça, mais un rapport où on jouait carte sur table. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de lui dire ce que je faisais et de faire ce que je lui disais et de ne rien escamoter. C'est-à-dire que même quand j'allais voir un interlocuteur qui ne lui plaisait pas, je lui disais, Sylvia, je vais le voir parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est indispensable, c'est incontournable, il faut aller le voir. Et donc ce rapport un petit peu, comment dire, franc, a fait, je crois, que ça a installé la confiance. Lorsque je lui ai demandé d'être filmé, elle me disait, non, ça m'embête, je vais t'aider. Mais je vais te donner les archives de mon père, mais moi, me filmer, ça m'embête, j'aime pas ça. Et j'insistais. Alors, une fois que j'ai compris que c'était pas possible, à la caméra, je lui ai proposé un audio de l'enregistrer, au moins sa voix, qu'elle me raconte sa version de l'histoire. Et là, elle a eu un argument massif et terrible à la fois. Elle m'a dit, écoute, je lutte contre deux cancers, j'en ai plus pour longtemps. J'ai décidé de ne plus m'emmerder dans la vie. Et pour moi, passer devant une caméra, c'est s'emmerder. Donc, non, tu ne me filmeras pas, mais je t'aiderai.
Mais
Yeah.
cette femme, elle est présente. Enfin, on a l'impression, en tout cas, qu'elle était présente déjà dans l'esprit d'une bonne partie de nos interlocuteurs sur ce film, et donc d'une certaine manière aussi dans ce film.
C'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Rémi Lainé et Yaël Vidane, pour Marcus Klingberg, un pur espion. Bravo à vous pour ce beau documentaire qui effectivement a encore des secrets. À bientôt.
Merci
Merci.
Lise.
Merci.
Judaïka. Judaïka.
Voilà une belle rencontre et je vous précise quand même que ce film, Marcus Klingberg, un pur espion, sera présenté sur grand écran à Paris ce dimanche 4 février. Ce sera au centre Rachi à 18h en présence justement des réalisateurs que vous venez d'entendre, Rémi Lainé et Yaël Vidane. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer, le voir en VOD sur le site du Festival du film juif de Paris. C'est simple, le site s'appelle Diasporama. .net, Diasporama.net. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent le voir en projection privée chez eux, à la maison, via une plateforme de VOD. Et sinon, ben rendez-vous au centre Rachi à 18h. Ce sera à Paris dimanche.